Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ils ont trop rêvé hier. Comprendre, trop fréquenter le LSD au risque de perdre la raison, de tomber dans la folie. Troisième volet de la série des chemins de la musique, Psychédélia de 1965 à 2001. Voici Psychédélic Punk, première diffusion sur France Culture, le 25 juillet 2001.
La musique commence.
Un peuple immense qui ne sait plus d'où il vient, ni où il va.
Hallucination due au toxique.
Psychédélie. Psychédélisme.
Psychédélie. Psychédélie. Psychiatrie. Psychisme. Psychédélia. Entendre des voix. Perception pathologique de faits, d'objets qui n'existent pas.
Which was my first experience with Jones.
Pour moi, la vision d'un mec qui écoute un truc psychédélique, c'est t'es assis sur un siège où il y a deux accoudoirs, tu te tiens dessus, tu dis putain où on va.
Psychosensation.
Psychomètre.
Psyché.
Hallucination collective. Aujourd'hui, Psychédélic Punk.
Le 21e siècle sera psychédélique ou ne sera pas.
Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad. A world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats.
Je sais qu'il y a eu un moment avant que les groupes ne deviennent psychédéliques. Un moment où tout s'est ouvert, où toutes les musiques semblaient possibles. Vous n'aviez pas à faire des chansons de 3 minutes, des hits comme les groupes de filles des années 60. Et ces groupes garage essayaient quand même de rentrer dans le hit parade. Les chansons étaient courtes, les idées complètement folles et les chansons étaient formidables.
It's all around. Let's take a trip. Fly from the ground. Whoa! Whoa! Oh, yeah. Let's take a trip. It's really hip. No one will know what goes on. Just you and me. And the dreams we see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it.
Au début des années 60, les garages américains sont remplis de petits groupes qui imitent leurs idoles, les Beatles, les Birds, les Stones, sur des instruments bon marché. Mais vers 1965, un nouvel élément rentre en jeu. Certaines de ces rockstars en devenir se mettent à consommer des drogues psychédéliques, mais d'autres, dans les régions les plus reculées des États-Unis, fantasment l'expérience psychédélique. Les groupes garages cachent leur inexpérience et leur manque de technique par tout un arsenal d'effets psychédéliques. La pédale fuzz, la distorsion, la guitare à 12 cordes, la reverb ou le delay. Les radios sont à la recherche de chansons courtes, au rythme rapide, faciles à retenir. Le punk psychédélique, c'est la série B du rock, le roman de gare, opposé au groupe hippie de la côte ouest ou au groupe anglais.
I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me.
Pour moi, ce que le rock garage représente, c'est une idée du désir pur. C'est
même avant le rock'n'roll. C'est au moment où on prend l'instrument. Ce que je sens dans ces groupes, c'est le désir d'être un musicien de rock. Après, la façon dont ils l'expriment, c'est leur histoire, ce n'est pas important. Ce que je vois, c'est le moment où ils ouvrent la porte du garage. Et il y a le batteur qui est assis derrière sa batterie toute neuve qu'il vient d'acheter. Les deux joueurs de guitare jouent sur le même ampli parce qu'ils ne peuvent s'en payer qu'un. Le chanteur est branché lui aussi sur le même ampli. Quant au bassiste, il ne sait même pas ce que c'est qu'une basse. Et la première note qu'ils jouent ensemble, pour moi, c'est ça, la grande histoire du rock'n'roll. Et c'est une histoire qui n'arrive pas seulement en 1967, c'est aussi une histoire qu'on a pu voir au milieu des années 70 au CBGB ou que je vois encore aujourd'hui à chaque fois que je sors à New York, que je vois un groupe de rock. C'est aussi ce que je vois dans le hip-hop, avec tous ces gamins complètement fous, leur platine et leur sampleur qui ont le désir de faire cette musique avant tout.
La définition pour le psychédélisme, c'est, disons, un élargissement de la conscience. Et ça se traduit, par exemple, avec l'avancée des effets, l'arrivée de la pédale fuzz, qui ouvre le son. Mais le concept psychédélique, pour moi, c'est aussi de dire qu'à ce moment-là, tout était possible. Tous les sons pouvaient marcher. Comme dans cette chanson qui ouvre la première compilation Nuggets, I Had Too Much to Dream Last Night, des Electric Prunes. C'est psychédélique. Et c'est difficile de l'expliquer, parce que pour le comprendre, il faut être soi-même dans un état psychédélique.
À la fin des années 60, la politique des États-Unis en matière de drogue est terriblement répressive. Les musiciens qui cherchent le grand flash sont conduits à se rabattre sur des drogues beaucoup plus cheap, des solvants, de la colle ou des amphétamines. En 1967, le LSD est définitivement mis hors la loi sur tout le territoire des États-Unis. L'expérience de la drogue, qu'on voyait au départ comme une récréation, est désormais condamnée par la loi. Les autorités émettent l'hypothèse que la prise de LSD risque d'entraîner des dégâts irrémédiables. Le fait de perdre la raison, le plongeon dans la folie devient un des thèmes majeurs abordés par les groupes de cette époque. Le Psychotic Reaction des Camp 5, I Had Too Much to Dream Last Night, J'ai Trop Rêvé Hier des Electric Prunes, comme si le rock renouait soudain avec l'esthétique romantique de Baudelaire ou d'Artaud. Les plus sauvages de tous ces groupes étaient les Seeds et le 13th Floor Elevator de Rocky Erickson.
Thank you. le premier groupe employé le mot psychédélique, c'est le Certain Floor Elevator, qui est basé au Texas.
Philippe Eric.
Erickson chantait dans les Spades et amène son morceau « Gonna Miss Me », qui est leur tube et qui est un morceau encore très garage, très court, base Rolling Stone avec un gros morceau de fuzz qui le rend psychédélique. Mais le deuxième morceau de leur album s'appelle Roller Coaster et ça dure 5 minutes et c'est vraiment psychédélique. Parce que le Certain Floor Elevator, c'est des guitares, mais c'est aussi une influence orientalisante. En plus, c'est des prosélytes du LSD. Ça leur a d'ailleurs joué des tours au final. Et puis, ils ont un petit instrument particulier qui est une cruche en terre dans laquelle leur chanteur souffle et chante. Et quelquefois, le son de la cruche change selon l'importance de la salive qui se dépose dans la cruche, selon qu'elle est plus ou moins pleine, parce que bien sûr, pour le souffle, c'est pas évident. Et le Certain Floor Elevator est le premier à utiliser le terme psychédélique dans un album. C'est pour ça qu'on le sait. C'est Psychedelic Sound of the Certain Floor Elevator. Et en même temps, c'est un groupe très mystique. Donc l'utilisation du LSD et de la musique, c'est pour élever le niveau mental des gens vers quelque chose d'autre.
Récemment, l'homme a découvert qu'il était possible d'altérer chimiquement ses pensées, peut-on lire dans le livret du premier album du 13th Floor Elevator. Le disque est effrayant. Chaque chanson est un plaidoyer pour l'usage de drogue. Les sirènes de police qu'on entend soulignent l'urgence et la folie de l'époque. On chante la DMT, un ancêtre du crack, une drogue extrêmement dangereuse. Les concerts chaotiques du groupe finissent par attirer l'attention de la police.
Ce groupe est assez important parce qu'il va faire quelques concerts à San Francisco. Il ne va pas vendre énormément d'albums. Bon, leur tube va rentrer dans les hit-parades, mais leur album, non. Sauf qu'il va aller à San Francisco et ils vont faire des concerts d'enfer à San Francisco. Et après, ils vont repartir au Texas. Et ça a beaucoup modifié la perception aussi des gens de San Francisco et le mouvement va encore plus se développer à San Francisco. D'autre part, c'est un groupe qui a une liaison aussi avec Jenny Joplin, qui est originaire du Texas. À un moment, Rocky Erickson propose à Joplin de devenir la chanteuse du Certain Floor quand elle revient au Texas pour se ressourcer un peu après la vie tumultueuse de San Francisco. Finalement, après des hésitations, elle ne va pas le faire. Puis le Certain Floor va se dissoudre. En fait, ils ont une durée de vie très courte. Ils durent à peu près 2 ans après, ils sont arrêtés par la police pour la possession de drogue. Rocky Erickson va en hôpital psychiatrique, ils se reforment, refont un disque et puis après ils repartent dans tous les sens. Ils ont des destins assez tragiques. Il y en a un qui est mort assassiné par sa femme. Erickson s'est jamais vraiment remis de ses séjours en hôpital psychiatrique. Un autre est clochard à San Francisco après avoir écrit un bouquin de philo. Bon, c'est un destin assez intéressant.
Le Velvet Underground portait le psychédélisme dans ses germes. On sait que Lou Reed avait été exposé à des cures d'électrochoc dès l'âge de 15 ans. De l'autre côté, John Cale avait suivi des études de musique classique. Il était fasciné par les expérimentations électroniques de Lamont Young ou de Stockhausen. À cette époque, Andy Warhol est au summum de sa popularité. Il lui semble tout à fait naturel d'étendre le pop art à la musique lors de concerts performances où se mélangent son hypnotique, light show psychédélique et la transe de pseudo-danseurs Gérard Malanga ou Eddie Sedgwick. Le Velvet Underground utilise le studio comme les Beatles ou les Beach Boys. C'est un lieu qui permet de faire voyager l'auditeur, de lui faire découvrir d'autres mondes. La véritable réussite du Velvet, c'est de n'avoir utilisé les recettes psychédéliques que dans une certaine mesure, en mélangeant la beauté surnaturelle de l'art véritable et la spontanéité sauvage du rock'n'roll, au centre exact des modes apolliniens et dionysiaques.
Il y a quelque chose qui m'a toujours attiré dans la musique, dans les paroles de chansons, aussi bien d'ailleurs dans la littérature.
Alain Dister.
C'est la vérité du récit. c'est le côté fleur de bitume. Et il y a ça dans le Velvet Underground. Dans les chansons de Lou Reed, il y a ce que Zappa appelait la folk music du New York de la perversion. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui a vraiment capté ce qui se passait et il a raconté en manière littérale, sans périphrase, sans symbole, sans effet de langage ou de musique, etc. Bon, c'est au niveau de la rue, voilà. C'est comme ça, dans la rue, il y a des dealers, il y a des trucs, il y a ci, il y a ça. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça, ça m'avait beaucoup impressionné parce que la musique de l'époque, au contraire, les chansons en tout cas étaient à l'opposé, quoi. C'était complètement dans le symbole, dans les images, censé ouvrir l'esprit, etc. Mais personne ne disait vraiment la vérité telle qu'elle était. Il y avait deux personnes qui disaient la vérité, c'était Zappa et Lou Reed.
Up to the test and quite merry spot of lovely guilt-free. We're in love with twilight pages, washes down with drops of pleasure. Lock on a cable's on me for the passion, what it justify my spurious desires. Rectify moments, my serious nurture, to hail up in the face of most odious time. Crying replies, most fast and vacuous, with words nearly cinched with the heartbeat of passions. Speak forth with the grace of the thought going under, and subject to making certain noble origin.
Mr. Moonlight, please raise the flag. Succulent, smooth, and gorgeous. Isn't it nice?
English used to have.
We're number one, and so
is nervous.
Isn't it
it's
sweet?
Not fun at all.
Yelling and various offenses, lovely the queen of Israel, the tub, state, the country, the committee, hold the head of the blood priest for an hour. Groveling and spewing in various offenses, punch that blow with the wing of the sparrow, the inverse, the obverse, the converse, the reverse, the shot winning wing, the edge of the sparrow. The super ripening, super numerous dimensions, the queen's fat shoes devoured by rats. There's one way to skin a cat or poison a rat, it is yet the full hit of your fourth rightly stated.
Put down the
Après le Velvet Underground, John Cale entame pour un temps une carrière de producteur avec les Stooges à Détroit.
Le bruit, c'est tous les sons que vous n'aimez pas. Les sons qui ne sont pas bienvenus.
Iggy Pop.
Pourtant, ça peut être très beau le bruit. Il y a des gens qui sont complètement accros du bruit. Comme pour la dope.
Nick Kent.
Les Stooges. C'était comme mettre Robert Johnson dans la ville de Détroit, dans ce contexte-là. Les Stooges ne disaient pas nous sommes des ouvriers, nous n'avons pas d'avenir. Ils disaient juste nous sommes des adolescents, on s'ennuie, on a des gros problèmes de drogue et on va en enfer. Et notre enfer n'est pas différent de l'enfer des hippies. On va montrer ça au monde et peut-être qu'il l'achètera nos disques. En tout cas, eux, ils sonnaient vrais. Si vous aviez 20 ans à cette époque, que vous pouviez voir ces groupes, vraiment, ils vous remuaient. Parce que tous les groupes de la côte ouest qui faisaient des chansons de 15 minutes, moi ça ne m'a jamais ému. À cette époque, le rock était encore vivant.
Détroit, ville psychédélique, cette cité industrielle est bien loin des canons californiens du flower power. La ville, en proie à des émeutes raciales d'une rare violence en 1967, génère des groupes au son agressif, semblable à un accident de voiture, à une bombe dans une usine de la General Motors. Le MC5 ou les Psychedelic Stooges d'Iggy Pop sont la réponse violente de gamins sans avenir à l'utopie hippie. Pour eux, les drogues ne sont là que pour décupler l'agressivité, pour permettre de crier, pour s'enfoncer dans la dépression. Ils chantent « My mom hates my heroin ».« Ma mère déteste mon héroïne ». Le temps des freaks et des guerriers psychédéliques est arrivé.
I'm alive out of my death grip, my death grip. Out of my death grip!
J'ai toujours préféré les beatniks aux hippies. Ils étaient plus drôles, plus gentils, alors que les hippies, ça sonnait faux. Je ne les supportais pas. Et j'ai eu une réaction viscérale. C'est eux qui m'ont fait me tourner vers ce rock violent. À cette époque, dans le mouvement hippie, il y avait des gens comme Charles Manson qui ont fait des choses extrêmement violentes. À la même époque, il y avait des chanteurs rock comme Jim Morrison ou Mick Jagger qui donnaient une version stylisée de Charles Manson. Moi, j'avais à peu près 20 ans, je regardais ça.
Ok.
Je me suis dit, bon, eh bien, soyons violents, on va exploser tout ça.
Iggy Pop, Frank Zappa et Captain Beefheart s'engagent dans le psychédélisme comme d'autres vont à la guerre. Ils détestent les hippies et leurs disques sont une réaction manifeste au flower power. La pochette du disque We're Only In It For The Money de Zappa parodie Sgt. Pepper's. Ses compositions empruntent plus à Stockhausen, Varese ou Stravinsky qu'aux Beatles.
Zappa pose une critique assez virulente de ce qui se passe justement dans ce courant psychédélique dont il a tout de suite perçu le côté de supercherie aussi. C'est pas parce qu'on fait un effet de sur le manche de guitare avec une pédale wah-wah ou une chambre d'écho qu'on fait de la musique psychédélique. D'ailleurs, ça doit quand même aller plus loin. Ne pose aucune critique sur la musique elle-même. Sur la musique psychédélique, bon, permettant d'entendre les petits effets, etc. Mais il ne pose pas une critique sur la création musicale, mais sa critique porte plutôt sur les comportements sociaux, sur le discours, sur le vocabulaire, sur la pauvreté du vocabulaire, sur ce côté extrêmement naïf, justement, et c'est pour ça qu'il emploie le terme punk, qui à l'époque désigne un jeune homme naïf qui se fait voir, quoi. C'est un petit peu ça l'image du punk. C'est d'ailleurs le premier à l'utiliser dans le monde du rock, mais c'est pas une critique musicale du tout.
Zappa aide Beefheart à donner forme à son surréalisme. L'album Truth Mask Replica s'inspire clairement d'Albert Heller. Et que cet album ait été enregistré sous LSD ou non, le tournoiement des guitares, clarinettes et saxophones est aussi désorientant qu'une hallucination, un délice pour tous ceux qui s'intéressent au son.
plupart des appâts, en fait, leurs études ensemble. Ils viennent du même, de la même banlieue de Los Angeles. On grandit ensemble, littéralement. Ils étaient plus ou moins amis et rivaux, eux aussi. Et la musique de Biffart est extraordinaire parce que c'est une musique qui n'a pas de référence, tout est décalé chez lui, les tempos sont décalés, les références musicales sont décalées, on peut relier ça à certains blues extrêmement rustiques, rugueux, si on, par exemple, on écoute certains thèmes de Biffart et qu'on écoute certains thèmes de Booker White, par exemple, on prend un exemple, guitariste du sud du Mississippi, on s'aperçoit qu'il y a la même rugosité, la même brutalité dans la musique. Mais avec chez Biffart, c'est ce décalage, encore une fois, dans les tempos, puis ce langage complètement inventé, quoi, littéralement. Il invente des personnages, il invente des mots, des néologismes, etc. Donc il y a certainement chez lui un univers... qui procède du surréalisme.
Le psychédélisme s'étend et envahit le territoire de l'art contemporain. Aujourd'hui d'ailleurs, Captain Biffart, le seul vrai dadaïste de la musique, est un sculpteur à succès et a l'avantage d'être le premier rocker qui se soit mis à la retraite et qui s'y soit tenu. C'était Psychédélia. Aujourd'hui, le punk psychédélique, une série des chemins de la musique proposée par Marc-Alexandre Milenvoie. Avec Lenny Kaye, guitariste de Patti Smith et auteur de la compilation Nuggets, Iggy Pop, Philippe Herré, auteur du livre Le rock psychédélique américain, Nick Kent, journaliste, écrivain, Alain Dister, auteur de Oh Hippie Days. Équipe psychotechnique, Bruno Martin, Sylvain D'Angoise, Christian Fontaine. Réalisation et hallucination, Jean-Philippe Navarre. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 2001. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que les précédents volets de cette série, ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Prochain volet de cette série, Psychedelic Soul.